Le destin est parfois bien malicieux. Imaginez, nous sommes en 1984 au collège Marie de France et une institutrice fait découvrir la scène à son élève de 8 ans. Elle lui transmet le virus, ça y est, il ne le quittera plus. Car 30 ans plus tard, c'est bien sur cette même scène qu'il joue, à l'auditorium du collège. Les professeurs, les élèves et leurs parents n'en reviennent pas. C'est un ancien de Marie de France qui se trouve là, devant eux. L'artiste est désormais accompli, tour à tour poète, pianiste, guitariste, interprète, il joue même du banjo et de l'harmonica. L'école y est un peu pour quelque chose. Cet ancien, c'est Thomas Hellman.
Marie de France m'a beaucoup aidé. C'est une bonne école pour la formation littéraire. J'ai découvert beaucoup de la littérature. Dans ma génération, il se trouve qu'il y avait beaucoup de gens qui aimaient la musique. On est plusieurs qui vivons de la musique aujourd'hui. Donc je garde un très bon souvenir du collège au niveau de cette culture générale. Aussi au niveau de l'amitié, parce qu'il se trouve que les amis que j'avais à Marie de France à 15, 16, 17 ans sont encore mes meilleurs amis aujourd'hui, dont Olaf qui joue sur scène, qui est mon ami depuis l'âge de 7 ans, le pianiste. Et j'en ai beaucoup d'autres qui sont encore mes vrais bons amis, sont ceux que j'ai rencontrés à Marie de France. Donc je dirais qu'au point de vue, au point de vue culturel, au point de vue de la culture générale, aussi au point de vue du questionnement identitaire, parce que tout le monde à Marie de France souvent parle deux ou trois langues, a plusieurs identités, plusieurs cultures, et ça m'a beaucoup marqué aussi. Cette espèce de mélange culturel, cette ouverture sur le monde. Donc de ce point de vue-là, j'en garde un très bon souvenir.
Avec une mère niçoise, professeur de français et un père texan, prof d'histoire, l'auteur, compositeur, interprète se dit à l'aise dans cette dualité identitaire.
J'ai grandi avec les deux langues. À la maison, on parlait le franglais, comme beaucoup de gens ici au collège Marie de France. Mais ma mère donc est française du sud de la France, mon père est américain. Et donc c'est ça, on parlait vraiment un mélange. We would mix languages, passe-moi le salt, des trucs comme ça. Donc j'ai grandi vraiment entre les deux langues. Et pour moi, les deux langues sont comme deux instruments de musique. Donc je passe d'une langue à l'autre comme on passerait du banjo à la guitare, au piano, à l'harmonica. Chaque langue a un peu sa... Son son, chaque langue a sa facture. Parfois, quand on a un peu writer's block, on n'arrive pas à écrire dans une langue, si on n'arrive pas à écrire en français, des fois on passe à l'anglais et ça vient plus facilement. Mais ma carrière s'est quand même fait surtout en français. J'ai fait quelques albums en anglais quand j'étais étudiant à l'Université McGill, où j'étais étudiant en lettres d'ailleurs, en littérature française, mais j'étudiais Beckett et mon mémoire de maîtrise portait sur le bilinguisme dans l'œuvre de Beckett. Alors, c'est une question qui m'intéresse depuis longtemps. Mais à cette époque-là, j'avais fait quelques albums en anglais, des albums étudiants, et puis c'est mon album français, mon premier album qui s'appelait L'Appartement, qui m'a quand même fait connaître plus. En fait, j'ai beaucoup tourné, surtout au Québec, j'ai tourné aussi au Canada anglais, en France pas mal aussi. J'ai fait deux albums en fait qui ont été distribués par Harmonia Mundi là-bas, puis on avait fait, entre autres, on avait joué à Paris Plage, c'était une scène extérieure. Et maintenant, je suis à la fois en musique, mais aussi beaucoup en littérature, donc ma carrière est quand même beaucoup plus en français en ce moment.
De ses origines familiales et son bagage culturel, Thomas Hellman en retient un amour inconditionnel des mots et de la langue française. Il se dit aussi curieux, en perpétuel questionnement sur les sujets qui lui tiennent à cœur, notamment l'immigration de ses ancêtres aux États-Unis. Un thème qui s'incarne dans des compositions musicales qui se veulent aussi bien littéraires que philosophiques.
La musique qui m'a toujours intéressé, c'était une forme de musique qui est très littéraire. C'est par exemple la chanson française, mais la bonne chanson française. Je pense à Brel, je pense à Richard Desjardins, Félix Leclerc, des gens qui mettent de l'avant le texte. Donc pour moi, j'ai toujours été intéressé par la capacité de la musique à rendre accessible des textes qui autrement pourraient être assez opaques. En même temps, j'ai toujours été attiré par une forme littéraire qui est musicale. Pour moi, la poésie est avant tout un art oral, c'est-à-dire qu'on a tendance, surtout dans les salles de classe, à enseigner la poésie sur papier et puis à l'étudier, la décortiquer, l'analyser, donc on la tue, alors qu'en fait la poésie, c'est avant tout une forme d'art qui passe par l'oreille, qui passe par les mots. Il y a une musicalité dans le langage et c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé.
Les Indiens du nord de l'Amérique font bien attention avec les contes. Ils disent que quand les contes se font entendre, les plantes ne s'occupent pas de pousser et les oiseaux oublient de nourrir leurs petits.
Sur scène, ce qui m'intéresse, c'est de projeter plusieurs images différentes, des questions différentes, créer une narration, mais laisser au public le soin de la compléter. L'idée, c'est vraiment... c'est le public qui crée sa propre narration à travers toutes ces images-là, à travers ces sauts dans le temps, ces sauts poétiques, littéraires, etc. Et c'est ça qui m'intéresse beaucoup plus, c'est de susciter la réflexion plutôt que d'y répondre.
L'atmosphère des concerts de ce Québécois franco-américain est douce et apaisante, mélangeant à la perfection poésie narrée et musiques acoustiques aux accents folk et blues. Les textes poignants sont aussi efficaces que mélodieux, en toute sobriété.